Dieu continue. Tournons-nous vers les femmes âgées, les mères de clan. Chaque nation leur attribue certaines responsabilités. Chez le peuple de la longue maison, les mères de clan et leurs sœurs choisissent les chefs. C'est énorme. Et les congédient quand ils manquent à leurs engagements. Mmh. Les mères de clan sont les gardiennes de la terre et n'oublient jamais les générations futures. Ça, c'est une conception très importante chez les Amérindiens aussi. Ils pensent toujours aux enfants de leurs enfants et aux petits-enfants, aux sept générations d'avenir.
On pourrait juste signaler que certaines de ces deux, par exemple, de ces mères de clan étaient présentes à la session des droits de l'homme à l'ONU l'année dernière. Donc elles ont aussi un rôle sur le plan international.
Exactement, heureusement maintenant.
Mais si je, par hasard, j'avais coché d'une page cornée le livre de Mary Crow Dog, Lakota Woman, où lorsqu'ils sont à Wounded Knee, les femmes essayent de discuter et de se prononcer, et il se trouve des hommes pour dire en riant, pendant des années, on n'arrivait pas à faire parler les femmes, et maintenant, on n'arrive plus à leur fermer la bouche.
Je crois que les femmes se sont rendues compte qu'il était grand temps qu'elles prennent certaines choses en main. Parce que les hommes, très souvent, ne savent plus très bien à quoi ils en sont. Ils sont... on les a tellement trompés de toutes parts que certainement beaucoup d'entre eux se sont carrément retirés, comme par exemple chez les montagnais, c'est frappant. Ils se sont retirés en ne voulant, au fond, ne plus participer à rien. Et les femmes ont compris que ce n'était pas la bonne attitude et qu'il fallait se battre, qu'il fallait lutter. Et je pense que c'est pour ça que maintenant, il y a tellement à rattraper qu'elles n'arrivent plus à se taire, heureusement, mais à agir. Elles agissent. Elles ne parlent pas seulement, elles agissent.
Oui ?
Oui. Est-ce que je vous parle de certaines réalisations ?
Avec beaucoup de
plaisir.
Voilà, parce que crois que vous avez certaines femmes, justement, certains portraits de femmes à nous faire connaître, voilà. Qui sont particulièrement engagées, justement, dans les luttes dont vous venez de parler.
Je voudrais dire qu'en même temps que le réveil indien, dont a parlé Vera après le long silence de presque 70 ans, après Wounded Knee, les femmes indiennes, justement, elles aussi ont commencé à s'organiser et à prendre conscience du rôle qu'elles avaient à jouer. Et, par exemple, en Amérique du Nord, se sont créées deux associations, deux groupes principaux, les Women of All Red Nations et le Indigenous Women's Network, qui les deux n'existent plus, mais qui ont été le détonateur pour mobiliser les femmes dans les actions et pour les rendre attentives à tout ce qu'elles pouvaient vraiment réaliser, à prendre conscience, j'allais dire presque, de leur pouvoir dans le bon sens, bien sûr.
Mm-hmm. Et quels étaient leurs premiers objectifs alors de ces deux associations?
Eh bien, c'était d'encourager justement les femmes à prendre des responsabilités dans le cadre de leur communauté et de raviver et transmettre les traditions, parce que ça a toujours été le rôle de la femme, de la mère, de la grand-mère en particulier. C'est pas parce que je suis grand-mère que je le dis, et des anciennes du clan. C'est elles qui transmettent la tradition, et même les traditions artisanales aussi. Une petite fille apprendra chez sa grand-mère, soit simplement en regardant, en faire ou en observant, les anciennes techniques qui maintenant, heureusement, plaisent tellement aux touristes qu'elles revivent. Elles ont été presque perdues, par exemple le quill work, vous savez, le travail avec les piquants des porc-épics.
Oui.
Quand les blancs ont amené les perles, ça s'est presque perdu. Évidemment, c'était tellement plus facile de travailler avec des perles. Mais grâce aux touristes, là, c'est un bon côté. Ça fait revivre toutes ces techniques. Aussi la vannerie, qui est très fortement pratiquée chez les Mohawks, en éclisse de frêne et en herbe douce. Et puis la fabrication de récipients de toutes sortes en écorce de bouleau où les montagnais sont passés maîtres. Tout ça, ça renaît, heureusement maintenant aussi, mais ça, tout ça, ce sont des choses qui sont transmises par les grands-mères, au fond. Mm-hmm. C'est pas tellement original, parce qu'au fond, chez nous aussi, la mère est occupée par des petits frères, des petites sœurs, ou je sais pas, par d'autres préoccupations. Ce sont très souvent les grands-parents qui transmettent un certain savoir, une certaine expérience, une certaine vision du monde.
À différence près que chez nous, hélas, on ne fait plus très souvent appel au savoir des personnes âgées. Et au contraire, on a la sensation qu'ils ne servent plus à grand-chose. Tandis que peut-être encore dans les nations indiennes, on reconnaît l'expérience et la sagesse des personnes âgées.
Je crois que c'est inné dans leur culture, ce respect de l'ancien.
Oui, alors j'aimerais dire justement qu'on peut assister à un retour des jeunes vers les anciens aujourd'hui. Ils ont une demande très forte envers leurs anciens, justement, qui ont gardé ces cultures, de leur transmettre.
Après une période d'un certain rejet.
Pas de rejet. Vous savez, quand des gens ont été tellement secoués, tellement blessés, c'est normal qu'il y ait une période comme ça de... Comment on pourrait appeler ça de repli sur soi, de silence. Et puis, il faut un certain temps pour à l'énergie, pour revenir. Et il semble que vraiment on assiste aujourd'hui, effectivement, sur tout le continent américain, à un réveil indien.
Et puis alors, vous disiez, Anne-Françoise, que...
Les femmes de ces groupes, on parlait des buts de ces différentes associations, se remettent également à planter des légumes et des fruits. Ça semble tout simple, mais vous savez que dans les réserves, ils vivent de l'assistance sociale. C'est l'assistance sociale qui leur fournit à manger, c'est-à-dire des conserves. Et si vous voyez par exemple des Indiens obèses, des images d'Indiens venant de réserves, vous vous dites oh, mais que, alors ceux-là, il ne faut pas qu'on nous raconte qu'ils n'ont rien à manger. C'est de la malnutrition, tout simplement.
Oui, ça, je crois que
ces femmes essayent de, pour les enfants, de leur donner une meilleure nourriture, plus saine. Tout ça, c'est dans une idée de renouveau, justement, de renouer avec les traditions, avec leur identité profonde.
Et puis, vous disiez alors que ces deux associations ont aujourd'hui disparu. Elles ont été remplacées par d'autres associations de femmes ou pourquoi ont-elles disparu?
Pas vraiment, mais les femmes qui en faisaient partie se sont engagées dans différents projets spécifiques, disons. Et ça a été repris, si vous voulez, par un journal, une publication qui s'appelle Native Nation, et par lequel, justement, elles peuvent organiser des rencontres, des cours, des contacts avec d'autres groupes. Et le but étant, justement, elles tendent à redonner confiance aux femmes et à revaloriser leur propre image. Parce que, il faut bien le dire, avec le christianisme de la colonisation, c'est tout le patriarcat qui a dominé la gynocratie qui était prépondérante avant la colonisation. Les colonisateurs, évidemment, ont tenté d'étouffer toute l'autorité de la femme parce que ça ne leur convenait absolument pas.
Et aujourd'hui ? Alors, avec la resurgence de la tradition indienne, est-ce qu'on voit reprendre la force du rôle de la femme et en tant que transmetteuse de génération, enfin responsable de génération?
Certainement. D'ailleurs, si vous vous reportez au livre justement de Mary Crow Dog, elle en parle aussi. D'ailleurs, c'est de sa grand-mère qu'elle a aussi eu les connaissances qu'elle a acquises au point de vue des traditions et de l'indianité. Et quand vous pensez aux femmes présentes au siège de Wounded Knee, ce sont toutes des femmes qui luttent précisément pour le renouveau, pour le renforcement de ces traditions, sachant très bien que c'est leur seul espoir de survie.
Mais en même temps, il y a quelque chose qui m'a frappée dans le livre de Mary Crow Dog, c'est qu'à la fois, elles se battent, effectivement, elles donnent l'exemple de plusieurs femmes qui se battent et qui ont même payé de leur vie le fait de se battre aux côtés de la nation indienne. Mais en même temps, quand elle évoque sa propre vie à elle, très précisément, on se rend compte que le rôle de la femme, par exemple, elle à côté d'un homme qui est un medicine man, qui est un homme reconnu dans le mouvement indien, etc., qui voyage beaucoup, les gens viennent voir beaucoup. Et elle, à quoi elle sert dans cette histoire-là? C'est à faire à manger pour tous ces gens, à les recevoir le mieux possible. Enfin, elle est vraiment là au service.
Oui, mais ça, c'est extérieur, je dirais. Si Crow Dog lui-même a tellement voulu l'épouser, puisqu'elle n'était pas du tout si enthousiaste au début, c'est qu'il a très bien senti quelle force elle avait en elle. et ce qu'elle pouvait donner. Et je ne parle pas de force de tenir le coup à faire à manger pour un tas de gens, mais de force de résistance et la bonne attitude face au renouveau, justement, à ce qui lui tient à cœur à lui aussi.
Pour ne pas oublier l'Amérique du Sud, j'aimerais dire aussi qu'il y a des organisations de femmes très importantes en Amérique du Sud. Et je pense que vous avez entendu parler de Rigoberta Menchú.
Oui, bien sûr.
On peut rappeler son livre « Moi, Rigoberta », qui était en fait une petite fille de paysan qui avait à peine été à l'école et qui, devant les souffrances de sa famille et de son peuple, est devenue une des représentantes les plus actives de son peuple et qu'elle est présente chaque année à la session des droits de l'homme à l'ONU.
Et elle se bat aujourd'hui en particulier avec les femmes.
Beaucoup avec les femmes et puis sur le plan des négociations au niveau international, elle est entre autres membre du Treaty Council.
En Bolivie, par exemple, il y a l'Organisation de la Mujer Aymara del Coyasu, l'OMAC, qui est très très active, qui a les mêmes buts au fond que les deux groupes dont je viens vous parler pour l'Amérique du Nord, mais qui s'occupe surtout des problèmes posés en Bolivie, c'est-à-dire en tout premier lieu les écoles aussi, ça revient toujours à ça, les écoles où les enfants puissent apprendre leur langue et leur tradition, et puis la reconnaissance de la femme, enfin tout le bien-être social au fond, ils sont très très actifs. Et là, l'été passé, justement, une représentante de cette délégation était venue à l'ONU. Une petite bonne femme charmante, souriante, mais déterminée et résolue. C'était Andrea Flores. C'était la première fois qu'elle sortait de son pays. Elle venait participer aux travaux des groupes de travail à l'ONU.
Vous avez aussi, je crois, vous m'aviez parlé, Anne-Françoise, d'une femme indienne d'Amérique du Nord qui, elle aussi, vient régulièrement aux sessions de la sous-commission des droits de l'homme.
C'est Sharon, qui est Cree, donc du Nord-Ouest, qui a fait du droit, et qui est une femme extraordinaire pour laquelle nous avons le plus grand respect. Elle lutte physiquement contre des gros pépins. Elle est là chaque année, imperturbable, et ferme et très intelligente.
Est-ce qu'elle porte au sein du groupe d'Indiens avec qui elle vient à Genève des revendications qui pourraient être typiquement des revendications des femmes amérindiennes?
Il me semble qu'elle lutte plutôt pour les droits de son peuple en général. Donc pour les droits à la pêche, par exemple, parce qu'il y a eu beaucoup, je pense que vous savez, il y a eu beaucoup d'ennuis de ce côté-là. Et puis elle s'est beaucoup battue contre les Jeux Olympiques de Barcelone. Et pour un aspect assez spécial, c'est que le gouvernement canadien a cherché à racheter énormément d'artisanat dans les communautés indiennes pour le gouvernement vendre cet artisanat à Barcelone. Et bon, naturellement, qui est-ce qui est perdant? C'est naturellement les communautés indiennes, parce que c'est toujours mieux de vendre soi-même, premièrement. Et ça, c'est encore typiquement un aspect des gouvernements nord-américains ou autres. On dédaigne, on méprise, mais si on peut tirer profit, on est là. On prend. Et puis je crois que Vera connaît bien aussi des associations au Chili et au Pérou qui sont très actives aussi, des associations.
Oui, il y a des associations de femmes. Mapuche au Chili et au Pérou, l'organisation Chirapac par exemple, à la tête de laquelle est une femme qui est extrêmement dynamique et déterminée.
Mais qui sont des associations de femmes indiennes en particulier, donc?
Oui, par exemple, ces associations de femmes mapuches, elles sont vraiment les mapuches sont les Indiens du Chili. Mm-hmm. Il y a des associations de femmes, oui.
Est-ce qu'elles ont des liens avec, je ne sais pas, les autres groupements de femmes? Parce qu'en Amérique du Sud, par exemple, je crois que beaucoup d'associations de femmes sont très bien organisées et se luttent beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des liens entre cette spécificité de la lutte des femmes indiennes avec le mouvement des femmes en général?
Ça, alors moi, personnellement, je ne peux pas vous renseigner là-dessus, mais il est très très probable qu'elles aient des échanges en tout cas. Je ne sais pas dans quelle mesure les groupements de femmes soutiennent ces mouvements. Moi, je dirais que ce qui est, il y a ce qui fait partie, comment dire, de la cuisine interne des Indiens, des femmes et des hommes indiens entre eux. Et puis, disons, ce qui fait partie de choses qui pourraient être mises sur un plan féminin ou féministe plus largement. Mais il y a aussi ce qui fait partie de leurs problèmes internes à eux et dans lesquels on n'a pas à intervenir ou à donner notre opinion.
J'aimerais dire un mot sur la femme guerrière.
Ah, y a-t-il des femmes guerrières?
Oui, et femmes guerrières, donc ça ne veut pas dire qui part au combat, quoi qu'il y en ait eu dans l'histoire, qui sont parties aux côtés de leur mari au combat. Mais ça peut être simplement une avocate, simplement, guillemets, une avocate, une enseignante, des femmes engagées justement dans des travaux dans les communautés qui se battent réellement et souvent au péril de leur vie. Et là, j'aimerais beaucoup citer Anna May Aquash, dont parle aussi Mary Crow Dog.
Voilà.
Qui s'est battue contre le racisme, contre l'intimidation, contre la haine, qui a été arrêtée sans mandat en septembre 75. Ensuite, elle a été menacée. Et ensuite, en février 76, elle a été assassinée, tout simplement. C'est le premier martyr des femmes guerrières.
Oui, d'ailleurs, Mary Crow Dog donne un détail qui mérite d'être cité peut-être pour voir la cruauté du gouvernement américain. Voilà, oui. On lui a carrément coupé les mains,
oui,
pour faire des...
Soi-disant, pour les envoyer à Washington pour l'identifier. Parce que quand on a retrouvé son cadavre, la police a fait l'enquête et a décrété qu'elle était morte de froid. Et la famille, évidemment, n'y croyait absolument pas, a fait faire une enquête par des médecins neutres qui ont découvert le trou de la balle dans la nuque qu'il avait tué. Alors on lui a coupé les mains pour les envoyer à Washington pour identification. Et quand on a pu rapatrier son corps, bon, ils ont rendu les mains, mais ils avaient encore coupé les bouts de doigts. Oui, c'est des choses horribles. Et malheureusement, on ne sait probablement pas tous les cas qui se sont produits, des cas semblables qui se sont produits. Et puis, il y a Ellen Moves Camp et Mary Crow Dog, donc toutes deux qui étaient courageusement présentes à Wounded Knee en 73. Et puis, Gladys Bissonnette, que Vera connaît.
Non, mais c'est pas grave.
Qui a travaillé avec Clyde Belcourt.
Oui.
Oui, c'est ça que je voulais dire.
Oui, d'accord.
Et puis, j'aimerais mentionner encore Ola Casador, qui est une vieille femme apache, qui est le chef, la tête de la Apache Survival Coalition. Donc, cette association qui lutte pour préserver, pour sauvegarder la montagne sacrée des Apaches, le Mount Graham. Et qui a une présence et une vitalité extraordinaire. Elle a passé 70 ans, elle est absolument... inouï. Mais Janet McLeod, on ne peut pas ne pas parler de Janet McLeod dans une émission sur la femme indienne. C'est elle qui a été la grand-mère de la résistance des femmes indiennes. Elle a créé des centres. Elle a, par exemple, elle s'occupe énormément des jeunes et grâce à elle, les jeunes participent beaucoup plus à beaucoup d'actions, justement, pour le renouveau. En dehors de la réserve où elle est, où il y a le centre de Sapadorn, c'est dans le nord-ouest des États-Unis, elle a par exemple mis sur pied une plantation de produits biologiques. Mais ce qu'il y a de fabuleux, c'est que c'est une plantation qui est disposée en damiers. Et qui est, les planteurs sont des Indiens et des Blancs qui travaillent ensemble. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et c'était au fond dans l'esprit des Indiens quand les Blancs sont arrivés, tout au début, avant qu'ils aient été trompés, ils voulaient, ils préconisaient, ils espéraient justement une espèce de cohabitation et de collaboration de ce genre-là. Et bien là, maintenant, ça se fait. Et Janet McLeod a même créé une société de la danse du soleil. Elle a aménagé des terrains pour du basketball. Ça a l'air de petits détails, mais tout ça, ça attire les jeunes. Ça les sort de l'alcool, de la drogue. Là aussi, elle a créé une association, une organisation tout à fait gérée par des autochtones, pour surtout les femmes, les jeunes femmes autochtones, qui malheureusement, ça donne aussi à la boisson, comme on a vu dans le Lakota Woman.
Alors je crois que pour terminer, parce que hélas, le temps court à une vitesse impressionnante, vous aviez envie, Anne-Françoise, de nous dire quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur.
J'aimerais beaucoup, en effet, vous lire la déclaration qu'ont fait les femmes qui étaient présentes à Wounded Knee en 73. Nous en avons assez de voir nos hommes désespérés, de les voir se tourner vers l'alcool, se suicider ou finir en prison. Nous n'avons élevé nos enfants que pour les voir décervelés par un système étranger qui applique une politique de génocide, détruit notre langue, nos coutumes, notre héritage. Nous en avons assez de voir nos frères et nos fils envoyés à la guerre, si c'est pour que les troupes du gouvernement des États-Unis, US Army, US Marshals, Civil Guards, FBI, les massacrent à leur retour. Ça fait 483 ans que ça dure, donc elle parle en 73. Et nous en avons assez et encore assez. C'est pourquoi nous sommes aux côtés de nos hommes, nous sommes à leur côté et nous rejoignons le combat ici et maintenant pour protéger nos enfants, pour que les enfants de nos enfants puissent être libres comme l'étaient nos grands-parents. L'avenir des jeunes et des générations à venir est enfoui dans notre passé. Nous sommes aujourd'hui celles qui amèneront la renaissance de la spiritualité, de la dignité, de la souveraineté. Nous sommes les femmes autochtones américaines.
Alors peut-être que pour conclure avec Vera et Anne-Françoise, j'aimerais vous demander de nous rappeler les rendez-vous que nous avons cités tout à l'heure dans la conversation. Peut-être d'abord le rendez-vous de juillet, de la session à la sous-commission des droits de l'homme.
Tout à fait, nous vous rappelons ce rendez-vous sur la plaine de Plainpalais, sous un grand chapiteau et avec des stands autour, qui aura lieu pendant les deux dernières semaines du mois de juillet, c'est-à-dire pendant la présence de des délégations indiennes à la commission des droits de l'homme à l'ONU.
Entre autres, un rendez-vous le vendredi 24 juillet à midi pour la marche qui ira de la plaine de Papalais jusqu'à l'ONU.
Et parallèlement, il y a aussi une exposition de tableaux par des artistes sud-américains et toujours avec ce thème de 500 ans de résistance qui aura lieu au Grand Café du Grutli. Si possible aussi dans toute la maison des arts du Grutli.
Mmh. Et puis bien sûr, si vous désirez participer à l'action de l'association de soutien aux nations amérindiennes régulièrement, pas seulement lorsqu'il y a une manifestation ou l'autre ponctuelle, ou si vous désirez soutenir financièrement, parce que Vera vous disait tout à l'heure qu'entre autres l'ASNA avait décidé de soutenir les écoles de survie aux États-Unis, eh bien c'est facile. J'imagine, vous avez un numéro de téléphone, un CCP à nous proposer, Anne-Françoise.
Vas-y, Anne-Françoise.
Alors, le numéro de Vera Tcheremissinov, c'est le 021 37 68 87, donc à Lausanne. Le mien, j'aimerais bien spécifier que je ne suis que le secrétariat et c'est Vera Lame et le stimulant de l'ASNA. Vera n'aime pas qu'on le dise, mais je tiens à le relever. Alors, le secrétariat est à Martigny. C'est le 026 22 71 92. Et vous voulez le compte de chèque?
Je crois que ça peut vous être utile. D'après ce que nous avons compris, c'est toujours le nerf de la guerre, on le sait bien.
Malheureusement. Alors, le 10-725-4 Banque cantonale vaudoise Lausanne, pour le compte numéro 590-361-6-767. C'est un peu compliqué.
Voilà. Et je pense que si des gens sont intéressés de recevoir la documentation de l'ASNA ou éventuellement de devenir membre de l'ASNA, je pense qu'ils peuvent s'adresser à Radio Zone et que vous nous transmettrez.
Mais avec beaucoup de plaisir. Donc nous rappelons Radio Zone 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève, avec l'entête Onde Femme, puisque c'est ainsi que nous vous transmettrons l'information.
Merci. Encore une petite phrase. Aucune nation ne peut succomber tant que résiste le cœur des femmes. C'est Cheyenne.
Anne-Françoise a encore une petite chose à nous dire.
Oui, je voulais simplement dire que beaucoup d'informations que je vous ai transmises au cours de cette émission, je les ai tirées de la revue Nitassinan, qui est la revue trimestrielle, qui est maintenant bimestrielle, pour préciser, du Comité de soutien aux Indiens d'Amérique à Paris. C'est une revue tout à fait exceptionnelle, qui donne beaucoup d'informations absolument authentiques, bien objectives, bien... Les enquêtes sont très sérieuses et nous travaillons très étroitement avec cette association.
Est-ce qu'on trouve cette revue ici ou il faut l'acheter en France?
C'est-à-dire qu'on peut s'y abonner, mais là aussi, je pense que le mieux, ce serait de s'adresser à l'ASNA et puis j'enverrai, j'ai des petits dépliants sur Nitassinan avec les conditions de... Le prix des abonnements et tout ça, mais vraiment nous le recommandons, Vera et moi, beaucoup.
Ouais, absolument.
Alors, remue-ménage pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et j'espère que vous aurez plaisir. Si vous n'avez pas pu entendre toute notre conversation en compagnie de Vera et Anne-Françoise de l'Association de soutien aux Nations amérindiennes, de réécouter. Je vous rappelle que notre émission est rediffusée ce soir à 23h, demain à 11h. Au revoir et à la semaine prochaine. Et c'est la pleine lune qui monte dans le ciel.